Direct en jeu, la radio insolite. J'ai réussi à trouver quelqu'un de plus insolite que moi. Bonjour Jean-Pierre.
Ça, c'est pas gagné du tout. Bonjour Alain.
Excuse-moi, c'était une présentation que j'avais envie de faire comme ça. Parce que toi, alors attention, si je devais te présenter, je dirais, il est écrivain, voyageur, poète, interprète, conférencier. C'est tout ? Ou il y a d'autres choses ?
Humain aussi.
Ah oui.
En tout cas, j'y travaille. Je crois que c'est un job qui ne nous est pas donné comme ça d'emblée. Il faut y bosser.
D'accord. Dis-moi, depuis que tu es né, tu as un parcours qui est incroyable. J'aurais envie de te poser une question, c'est combien de fois as-tu fait le tour de la Terre ?
Alors, écoute, je ne sais pas si j'ai fait le tour ou si elle a tourné autour de moi, c'est une question. Bah, écoute, j'ai voyagé pendant de très très nombreuses années non-stop, très souvent sans vraiment de sous, et en autostop la plupart du temps. Et après, je n'ai jamais compté le nombre d'endroits, de pays, de trucs. J'ai fait ça parce que c'était dans l'élan du cœur de l'époque. Il y a eu deux types de voyages. Il y a eu un voyage de l'inconscience pendant de nombreuses années. Étant donné que je suis aveugle et que ça m'est arrivé quand j'avais 16 ans et que c'était quand même très très dur à avaler, donc il a fallu mettre par-dessus tout ça de la drogue et puis une vie de la délinquance aussi et une vie très très mouvementée pour ne pas être avec moi-même. Pour essayer en tout cas d'éviter. Et puis un jour, j'ai réalisé, je ne sais pas si c'est un jour d'ailleurs, mais c'est un peu à peu, j'ai réalisé que si on ne s'aimait pas, ben on passe à côté de sa vie. Je parle déjà de s'aimer soi, moi, je ne parle même pas d'aimer les autres, parce que c'est le début, s'aimer soi pour aimer les autres. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu dois faire mon gars pour t'aimer ? Et ben, j'ai découvert qu'il fallait que je crée ma propre vie, qu'il fallait que j'arrête de subir tout ce qu'on m'avait transmis, en bien ou en mal. Donc j'ai essayé de faire un peu de table rase et de décider du type de vie que je voulais. Et le type de vie que je voulais vraiment, c'est être, alors ça, c'est prétentieux, mais maintenant que je fais partie de la Société des explorateurs français, je peux le faire. Je voulais être aventurier et je l'ai été, on peut dire. À ma manière. Et après, ça a été d'amener des mots sur tout ça. Donc, écrire des livres, de la poésie. Très longtemps, avec aucune idée d'être publié. Je ne me passais même pas par la tête. Et il y a eu une rencontre très tardive, mais qui a été foudroyante, je vais le dire. Je vais voir le film, enfin je vais écouter, moi j'utilise le langage commun, hein. Je vais écouter et voir le film Intouchable,
oui.
Un peu en marche arrière, en me disant « ouais, voilà, on va être sur le handicap, tout le monde y va, j'ai pas trop envie ». Mais j'y vais. Et à la fin du film, j'entends le nom de l'homme tétraplégique en vrai, qui est incarné par, comment il s'appelle ?
François Cluzet.
François Cluzet. François Cluzet, ouais. Et j'entends Philippe Pozzo di Borgo.
Oui.
Et je dis à ce moment-là à ma compagne, je dis, bah, tiens, je vais le rencontrer. Elle me regarde avec des
comme
grands
ça.
Yeux, elle me dit, ah bon Ben, j'ai cessé, je vais le rencontrer. Et on rentre à la maison. Puis, je ne sais pas, de temps en temps, elle me dit, alors, tu l'as contacté, sa maison d'édition, tout ça. Je dis, non, mais ça va se faire. Et, un après-midi, coup de fil d'une journaliste de Rennes qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'écris un livre qui va s'appeler « L'avenir est en nous », qui consiste à poser 5 questions, les mêmes, à 42 personnes.
D'accord.
Dis, ah ouais, elle me dit donc je vous ai choisi. Je dis, ah, très bien, sympa. Il y a qui là-dedans ? Elle commence à me nommer des gens, Jean-Claude Carrière, Jean-Marie Pelt, enfin, bon, des tas de gens tous plus connus les uns que les autres. Et à un moment donné, elle me dit, Philippe Pozzo di Borgo. Je dis, ah, arrêtez-vous là. Je dis oui, je vous fais votre truc dans 2 heures, je vous renvoie tout. À une condition, vous contactiez cet homme et que vous lui dites que je voudrais, moi, le rencontrer. Et elle l'a appelé et Philippe m'a invité au Maroc, chez lui, très rapidement. Et extrêmement rapidement, il m'a dit, tu sais qu'on a besoin de mecs comme toi. Il a appris un peu mon langage parce que quand même, c'est un aristocrate, un monsieur extrêmement bien éduqué, mais qui a une empathie extraordinaire avec les gens. Et je dis, c'est quoi le... De quoi tu parles, en fait? Il dit, écoute, on a besoin de gens comme toi. On a besoin de gens qui ont pas la langue de, qui n'utilisent pas la langue de bois, qui viennent de nulle part. Moi, je n'ai pas fait d'études, hein, du tout. J'ai quitté l'école en quatrième. Je suis parti sur les routes. Et on a besoin de gens comme toi pour témoigner sur les différences, sur toutes les différences. Handicap, pas handicap. Voilà. Donc je rentre, je comprends rien à tout ça. Je sens que Philippe est prêt à me donner du réseau si j'en ai besoin. Mais franchement, je ne sais pas du tout quoi faire de ça. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui se passe là. Je fais rien. Je me balade à un moment donné avec une copine en voiture dans les Pyrénées et un coup de téléphone. Et quelqu'un me dit bonjour, Patrice Franceschi. Alors là, j'ai ah ouais. J'ai ah ouais, le vrai ou une contrefaçon? Et Patrice Franceschi, donc, est écrivain, entre autres, aventurier, s'il y en a un dans ce siècle, c'est Patrice, patron de la boudeuse, voilà, il a fait des favoris. Il se bat pour le Kurdistan sur le terrain depuis des années, Kurdistan Rojava. Patrice m'appelle et il me dit, écoute, j'ai vu ton blog, je suis tombé dessus, je suis directeur de collection au Seuil, dans la collection Point Aventure. Et j'aimerais bien t'éditer. Bon. Du coup, bah, je suis monté à Paris. Et c'est comme ça que ça a commencé. Tu vois, c'est comme si Philippe, même s'il n'a rien fait concrètement, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans l'innommable, dans ce qu'on ne sait pas, dans le grand mystère de la vie, où on ne comprend pas tous les liens de cause à effet. J'ai vraiment senti quelque chose qui s'est allumé à ce moment-là, quoi. Et depuis ce temps, bah écoute, ça n'a pas trop arrêté.
C'est marrant, parce que quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as
Ouais.
quitté l'école en quatrième, mais tu as vécu
Ouais.
l'école de la vie. Et puis de l'autre côté, ça a été ouais, des rencontres un peu inattendues ou des opportunités que tu as saisies. C'est.
Alors oui, donc ça, quand j'ai 12-13 ans, que j'ai entendu que j'allais être aveugle, mais que je l'ai oublié très très vite. Parce que c'était pas concevable, je voyais très très mal déjà. Tous les soirs, je rêvais, mais vraiment tous les soirs, je rêvais, je créais. En fait, il y a un désir qui est venu, qui ne m'appartient probablement pas, quelque chose d'impersonnel, et je l'ai tellement fait, comment dire ça, cuisiner tous les soirs, que c'est devenu un rêve. Et tous les soirs, je me voyais écrivain, je me voyais conférencier, je me voyais apparaître sur des écrans, dans des films. Le comédien et tout ça. Ce qui est absolument pas pensable, mes parents n'avaient pas de télé, on n'avait pas de livres. À l'époque, on n'avait même pas d'eau au robinet à la maison. On habitait dans une petite fermette. C'est une vie extrêmement rurale. Et j'ai eu ça que j'ai nourri pendant des années. Ceci dit, après, je pars sur les routes, tout ça, j'oublie ou je pense que j'en suis totalement incapable. Et un jour, on me revient, arrive dans ma vie une phrase de Goethe. Qui dit méfiez-vous de vos rêves à l'adolescence, ils risquent de se réaliser. Et ce jour-là, ça m'a ouvert les yeux, si je peux me permettre. Et je me suis dit, mais en fait, les rêves que j'ai entretenus, c'est de vouloir devenir écrivain, tatati, tatati, tatata, sois vigilant, reste avec ça dans ta conscience, tu ne sais pas quoi en faire, mais sois vigilant, je suis certain que la vie va frapper à ta porte. Et va te tendre la main pour que cela se réalise. Et c'est complètement ce que j'ai fait. Je suis vraiment rentré dans un travail, bon, alors, plus de méditation et surtout d'attention permanente. Et en fait, oui, ben voilà, des tas de gens sont venus frapper à ma porte. Des choses que moi ne pouvais pas faire, elles m'ont été autorisées, si tu veux, par des gens qui m'ont tiré par la main, comme là, ben, récemment. Jérémy Ferrari, là j'appartiens maintenant à Dark Smile Productions en tant que conférencier, c'était complètement improbable. J'ai rencontré Blanche Gardin qui m'a fait tourner un extrait de son dernier film. Bon voilà, l'extrait a été viré comme d'autres. Mais je veux dire, depuis une dizaine d'années, la vie me fait rencontrer beaucoup de gens, notamment, bah, écoute, je prends le train, je sympathise avec un homme que je ne connais pas. Et on est resté en lien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé de me créer mon Wikipédia et ma chaîne YouTube. J'avais rien demandé. Et ça a été tout le long de ma vie, c'est comme ça, depuis quelques années.
Tu vas être en spectacle au cabaret Le
Oui.
Marseillais à Avignon. Et ce qui est
Oui.
assez original, c'est le nom du spectacle. Ne touchez pas à l'interrupteur, les carnets de voyage d'une canne blanche.
Oui, c'est vrai, ça a de la gueule quand même,
Ah
finalement. Hein.
ben...
Quand je l'écoute dans ta bouche, comme
ça,
dans
c'est
la mienne,
sorti du
j'entends plus
cœur,
rien.
ça a de la gueule, oui. Et en plus, ce qui est assez original, c'est que tu vas faire de la lecture. Alors.
Oui, alors si tu veux, c'est mon dernier gros bouquin qui s'appelle Voyage du coq à l'âme, qui regroupe 70 histoires à travers le monde, des anecdotes. Bon, toujours teintées. En tout cas, c'est des prétextes d'histoires qui me sont arrivées pour parler de la manière de les vivre. Donc c'est un voyage à la fois extérieur et à la fois intérieur. Et Pierre, avec qui je propose ce spectacle, je joue ce spectacle depuis quelques mois. Pierre, on est devenu ami à Avignon. Et quand il a lu mon bouquin, il m'a dit, il est comédien. En tout cas, il a fait beaucoup de lectures. Notamment, il a fait deux festivals d'Avignon en tant que lecteur. Mais il a toujours lu des auteurs. Il a lu Chessac, il a lu, enfin voilà, de nombreux auteurs, Bobin, Giacometti et autres. Et quand il a eu mon dernier bouquin, il me dit, tu voudrais pas qu'on monte un spectacle tous les deux de lecture? J'ai dit, attends, Pierre, moi j'ai jamais lu, je me sens pas trop de faire ça, je me sens pas trop légitime pour ça. Il se trouve que je me fais inviter à Strasbourg, une semaine qui m'est consacrée autour de mes deux films, La Deux Hommes, un Regard et Zigonéchi, et de mon écriture et tout ça. Et à un moment donné, il reste du temps dans une interview. La femme me dit, vous ne voudriez pas nous lire un peu de poésie? Je dis, bah, écoutez, oui, mais j'ai jamais fait ça. Mais je dis, moi, ça ne me dérange pas. Vous me proposez, je le fais. Mais vous attendez pas un superbe lecteur. Je lis presque une demi-heure. Je sors de la salle. Un monsieur vient vers moi avec une voix très bien plantée, une poignée de main viril. Il dit, bonjour, Michel Rimbaud, je suis comédien. Enseignant d'art dramatique, il dit votre lecture là. Alors, je me dis qu'est-ce qui va me sortir quoi. Il faut que vous continuez à faire ça. Il dit vous êtes absolument pas professionnel, ça s'entend. Mais alors par contre vous nous embarquez complètement parce que ce sont vos mots et
Bah
je sais
oui.
pas ce que vous faites avec, mais vous nous amenez complètement. Donc je reviens à Avignon, je dis à mon pote Pierre, écoute, je viens d'avoir l'assentiment de quelqu'un qui est prof d'art dramatique et qui est aussi lecteur pour Audible et tout ça. Donc du coup, j'ai dit oui. Et depuis juin, on tourne avec ce spectacle, principalement pour le moment chez des gens. D'ailleurs, si quelqu'un nous entend, a envie de nous contacter pour nous inviter dans son salon ou dans son jardin ou sur sa terrasse, c'est très bien. Et
Oui.
on est déjà passé dans deux théâtres aussi dans la région. Et là, on joue le 25 novembre au Marseillais, qui est donc un cabaret au centre-ville, rue Thiers, je crois,
C'est ça,
d'Avignon.
exactement.
Et c'est du bonheur, vraiment, parce qu'il y a une complicité qui s'est créée entre nous. Et aussi, on m'avait déjà dit ça, mais ça intrigue et ça touche beaucoup les gens de voir les doigts se balader sur du braille. Il paraît qu'il y a quelque chose d'un peu esthétique.
Ah, c'est...
D'où quand je joue seul, parce que je fais aussi un spectacle seul qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. Au bout de ma nuit, pardon, c'est un spectacle de lecture de poésie et je joue quasiment totalement dans le noir, hormis un petit laser ou une petite lumière sur mes mains.
Alors, ce qui est original, c'est que je veux dire, tu joues toujours sur les mots. En 2009, par exemple, tu ouvres un blog qui s'appelle L'illusion du handicap. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que on se demande, avec ce que tu as vécu, c'est une richesse intérieure que tu réussis à développer? Est-ce que c'est l'envie de partager avec les autres? C'est quoi ton leitmotiv?
Là, aujourd'hui, je suis les conseils de mon maître, Philippe Pozzo di Borgo, dont il faut absolument lire le bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Voyage immobile. Voilà, ça confine vraiment à la sagesse. 25 ans, au fond d'un lit, à regarder le plafond, tétraplégique, soit on devient dingue, soit on devient sage. Et oui, bah, Philippe m'a suggéré de témoigner. Et je me suis aperçu que, parce que j'ai quand même parlé dans beaucoup, beaucoup de salles et dans beaucoup d'endroits, je me suis aperçu que de temps en temps, ça réveille des choses chez des gens, en tout
Oui.
cas des envies de changer, de l'espérance, et c'est chouette, c'est vraiment chouette. Je pense que c'est un peu à mon âge, 66 balais, c'est un peu le moment, c'est l'automne quoi, de la vie, donc c'est le moment de proposer, tu vois, je ramasse des châtaignes, je ramasse des pommes, je ramasse, et puis voilà, et je les propose. On pose des petits fruits et les gens, ils en font ce qu'ils veulent.
J'étais en train de sourire parce que je me disais qu'en plus, avec ce qu'on vient de vivre les 2 ans passés depuis 2020,
Oui.
c'était un retour à l'authenticité. C'était aussi, comment dire, une expérience et un retour de vie qui est assez intéressant quand même.
Ouais, moi, je sais pas, j'ai pas vécu ça. Alors, j'ai plein de constats, peut-être pas le propos de l'interview, sur ce qui vient de se passer, mais moi j'ai continué à faire mon petit bonhomme de chemin. Tu sais, voilà, si j'ai pas de public, j'ai du public intérieur. Moi, tu sais, je vis avec Zorba, Allen Ginsberg, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, vivants ou morts, et. Même si je suis seul, je continue ma vie avec eux, je continue à échanger avec eux, on collabore, on co-crée, et voilà. Je crois que même en prison, ça continuerait à me nourrir la vie,
C'est quoi
clairement.
ton rêve demain?
Écoute, c'est que demain continue. C'est que demain existe. Je ne suis pas très persuadé d'un demain à long terme pour l'humanité. Et tu vois, j'ai passé du temps là chez les Kogis, là chez les Indiens Kogis, il y a 2 ans et demi. Des Indiens qui tirent la sirène d'alarme depuis 30 ans pour l'Occident, en nous disant qu'on a totalement asséché le sein de la terre-mère.
Oui.
J'ai beaucoup parlé, notamment avec leur vieux mamou, leur vieux sage, leur directeur de conscience en quelque sorte. Et je me dis qu'on est peut-être allé un peu trop loin dans la consommation, le profit et la séparation entre moi et l'autre, et notamment entre la séparation entre culture et nature, tu vois. Je suis en train d'écrire un texte en ce moment sur lequel je bosse qui s'appelle Le cercle de la peur, où je raconte justement tout ça. Donc
D'accord.
c'est qu'on vit, on s'est mis à vivre la nature comme une seule ressource, alors qu'on en fait partie de la nature. Et si on ne se respecte pas soi-même sous la forme de la nature, ben écoute, où va être demain? Voilà. Donc j'espère que demain va continuer. Ça veut dire, en disant ça, pour répondre à ta question, j'espère que les dirigeants vont prendre conscience et changer, et probablement auront besoin de nous imposer des lois absolument, comment on appelle ça, tyranniques. Ouais. C'est terrifiant de dire ça, hein, mais je crois qu'on ne peut pas continuer à 8 milliards d'êtres humains de polluer, de consommer comme on le fait aujourd'hui.
Oui, c'est
Et j'en
pas.
fais partie, hein.
Ouais,
Moi,
c'est.
je
Enfin,
suis pas un paradigme.
moi, je vois pas le côté tyrannique. Je vois le côté si ça continue. En effet, comme tu viens de dire, on est passé hier à la Terre à 8 milliards d'habitants et la Terre n'est
C'est ça.
pas apte à assumer cela. Et puis, si ça continue, je
Non.
crois qu'on est prévu en 2050 à 10 milliards d'habitants et la Terre ne peut pas assumer ce type de choses. Et ensuite, quand on voit comment dire tout ce qui a été fait auparavant sans se soucier de la qualité.
C'est complètement ça, oui.
Voilà, c'est tout. Bon.
Donc voilà, demain, j'aimerais bien un demain conscient, l'humanité, un espèce de réveil. Mais bon, ce qui est un peu insouciant quand même, c'est pour revenir à la période de confinement, ça n'a rien changé, tu vois. Je ne vais pas les citer, mais t'as les compagnies d'aviation qui continuent à t'amener au Maroc pour 25 euros et en Italie pour 25 euros, et les gens à partir 3 jours en avion. Pour dire, je suis allé m'éclater à Bucarest, je suis allé enterrer ma vie de garçon. Bon, écoute, d'accord, ok.
Ou tu permets de faire un ton d'humour où les
Oui.
équipes de foot qui vont prendre un avion quand ils seront au Qatar
Oh
pour faire
non.
80 km,
Non.
ça c'est
Oh
assez
non.
extraordinaire. Je veux dire que là-dessus, il y a des fois
Oui, mais écoute, on a notre ami avignonnais Capitaine Rémy, qui lui a quand même fait une réponse avec son char à voile. Il l'a fait concrètement. Il est
Oui.
parti de Paris, il est allé à Nantes avec son char à voile.
Oui, j'ai entendu parler de l'histoire.
Il est extra, lui. C'est un voisin. Hein. Il habite l'autre côté du Rhône, à, comment ça s'appelle, à Villeneuve-les-Avignon.
D'accord. Ok, ben bah écoute, donc c'est le 25.
Le 25 novembre à 20 h, ne touchez pas à l'interrupteur. Vous vous demandez bien pourquoi. Hein. Je ne
Ah
sais
ben.
pas, est-ce que je vous le dis?
Eh
Pourquoi
ben.
pas toucher à l'interrupteur? Bah parce que la plupart des gens qui, quand je vais chez des gens, à un moment donné, je demande par exemple, bah tiens, fais-moi voir la porte des toilettes. Non seulement les gens m'ouvrent la porte des toilettes, mais ils appuient sur l'interrupteur en disant, bah comme tu vois pas où est la lumière, on te l'allume. C'est drôle
Excuse-moi,
quand même.
c'est
Hein?
le côté sourire, côté un peu insolite du truc.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Donc on vous espère nombreux. Et surtout qu'après, on peut boire des coups quand même, on peut
Ah
boire
bah
des verres.
oui, parce
C'est
que
un cabaret.
c'est quand même un cabaret, en effet, ça c'est important. Et
Ah bah oui.
là-dessus, oui, c'est une ambiance, c'est original. En plus, je me permets de rappeler que ça s'appelle le cabaret marseillais à Avignon, on peut un peu être un peu surpris. Mais bon, je pense qu'on doit retrouver les goûts du Sud, comme on l'appelle, quoi.
On
Parfait.
va retrouver les goûts du Sud, oui, et puis c'est des gens que j'ai appris à connaître. D'ailleurs, si vous êtes curieux, si vous voulez vous marrer, vous allez sur mon Facebook. Je viens de publier hier une petite vidéo extrêmement drôle où je joue le barman. Enfin, comme si je n'avais pas le choix, je viens faire le spectacle. Je me retrouve barman et évidemment, barman aveugle, ce n'est pas très simple. Et elle a duré 1 minute 09 et elle est super drôle, cette petite vidéo.
Eh ben parfait.
Voilà.
Bah écoute, je trouve que
Ben,
c'est
merci beaucoup,
une très belle
Alain.
conclusion. Merci d'avoir pris tout ce temps-là, surtout d'avoir été authentique, d'avoir été vrai. Ça, c'est le truc qui me plaît quand je rencontre et quand je croise des gens comme toi. Et puis au plaisir de te croiser très très vite.
On va se rencontrer.
Avec plaisir. Merci à toi.